Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux.
Comment, 6 heures ?
Que la force soit avec vous en ce mardi 15 décembre. Bonjour, merci de vous réveiller avec France Culture. Un autre jour est possible, votre réveil culturel, avec au programme Thomas Negaroff, l'historien spécialiste de l'Amérique. Depuis hier, il nous parle de la guerre des étoiles, mais en faisant une analyse politique de la genèse de cette trilogie. Je vous rappelle bien sûr, ai-je besoin de vous rappeler que le 7e volet de la saga sort demain. Et puis en deuxième partie, on parlera français avec quelqu'un qui sait manier la langue française, c'est Alain Rey qui sera mon invité. Et puis aussi, on aura la visite de Auriane Jeancourt du magazine partenaire d'un autre jour est possible, le magazine Transfuge. Mais pour commencer, tête chercheuse.
Somewhere in space, this may all be happening right now. Star Wars.
Here they come.
La guerre des étoiles n'aura pas lieu, par l'historien Thomas Negaroff. Aujourd'hui, deuxième épisode, la peur en politique. Un thème récurrent. Pour ceux qui ont vu la guerre des étoiles, c'est même un thème évident. C'est oui. Le moteur même du film.
Et même pour ceux qui regardent l'actualité américaine. La peur, elle est pratiquement consubstantielle de la nation américaine. Bien sûr, dans la guerre des étoiles, dans la saga, Maître Yoda dit que la peur conduit au côté obscur. C'est la peur la clé de toute la saga. C'est quand Anakin a peur de que sa mère meure qu'il va basculer du côté obscur. C'est parce qu'il a peur que Padmé, l'amour de sa vie, ne meure qu'il va être conduit du côté obscur par Palpatine, qu'il utilise parfaitement. Et puis c'est Palpatine qui va, et là on est dans la plus forte relation avec l'histoire américaine, c'est Palpatine qui va, dans la prélogie, donc la trilogie mais des années 2000, qui va pousser le Sénat dit galactique, mais dit Sénat et vous allez comprendre leur relation avec les États-Unis, qui va pousser le Sénat à lui voter les pleins pouvoirs parce qu'il agite la peur d'un complot mené par les GI. Par les Jedi, vous voyez, c'est marrant, je fais moi-même le lapsus, ouais. Par les Jedi. D'ailleurs, on est là au cœur, effectivement, de ce que Richard Hofstetter appelle le style paranoïaque de la vie politique américaine. Il écrit dans les années 60, Hofstetter, après la prise de pouvoir de Barry Goldwater sur le parti républicain. C'est-à-dire qu'en 64, à la grande surprise de tous, parce que les conservateurs avaient quasiment disparu du paysage politique américain, on a du mal à l'imaginer aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait pratiquement plus de conservateurs. Dans le parti républicain, c'était vraiment des modérés, très modérés. Et puis les libéraux étaient plutôt du côté des démocrates. Et en 64, Barry Goldwater obtient à la grande surprise l'investiture de son parti pour être le candidat des républicains lors de la présidentielle de 64 face à Johnson. Et Hofstetter montre à quel point cette campagne a été faite autour de la peur. La peur du déclin de l'Amérique, la peur de la disparition même de l'Amérique, avec des notions extrêmement fortes d'apocalypse, d'Armageddon, etc., qu'on retrouvera énormément, bien des années plus tard, dans la bouche de celui qui va naître politiquement au moment de l'investiture de Goldwater, qui est Ronald Reagan. Donc il y a un fil qui est tiré entre Goldwater, Ronald Reagan et bien sûr la guerre des étoiles, puisque Reagan sera celui aussi qui parlera de guerre des étoiles au sens militaire du terme.
En
récupérant le film.
Mais Thomas Negaroff, la peur en politique, ce n'est pas une spécialité américaine. Tout le monde utilise la peur pour des raisons politiciennes.
Oui, alors...
Tout le monde.
Oui, en tout cas, effectivement, les démocraties, on le voit aujourd'hui hein, avec toutes les lois sur la sécurité, les grandes démocraties utilisent fréquemment la peur pour, en tout cas, les partis politiques pour arriver au pouvoir ou pour s'y maintenir. C'est vrai. Mais dans le contexte américain, il y a peut-être une spécificité, dans la mesure où la peur, elle est apocalyptique. C'est-à-dire que nous, on va nous parler, alors peut-être qu'aujourd'hui en France, avec le Front National, on évoque un peu cette dimension d'apocalypse, que ce serait la fin de quelque chose, mais aux États-Unis, c'est pas nouveau. Je veux dire, il y a une récurrence de la notion d'apocalypse qui pourrait arriver si, et là, alors là, vous pouvez mettre ce que vous voulez derrière, trois petits points, hein, si les uns arrivent au pouvoir, si les autres se maintenaient au pouvoir, etc. Alors cette idée d'apocalypse, de puissance apocalyptique, on la trouve chez Hofstetter, qui montre que le complot aux États-Unis ne fonctionne que s'il a pour conséquence, pour ainsi dire, l'apocalypse, l'Armageddon. Et donc, vous allez avoir comme conséquence de ça une lutte à mort entre le bien et le mal. Et là, je prends un autre historien américain qui est un historien extraordinaire, qui s'appelle Gary Wills, qui a écrit au début des années 80 un livre fondamental qui a été traduit en français au Seuil, qui s'appelle « L'Amérique et ses démons ». D'ailleurs, mon sous-titre de mon livre emprunte beaucoup à Gary Wills. C'est une sorte d'hommage et de poursuite intellectuelle de son travail. Gary Wills dit, il s'appuie sur Hofstetter, il dit « C'est vrai, on a la théorie du complot, donc on va mettre en place des démons qui joue cette fonction, hein, d'être le démon, c'est celui qui va fomenter le complot et conduire à la fin de l'Amérique. Mais Gary Wills va plus loin. Il dit, le complot, on lui confère une puissance extraordinaire, évidemment totalement délirante. Moi, je me souviens de leaders démocrates qui, au début des années 1990, vont dire aux Américains que Saddam Hussein, première guerre du Golfe, il a la puissance cumulée d'Hitler et de Staline. Vous vous souvenez certainement, et les éditeurs aussi, comme on nous racontait à l'époque, que l'armée irakienne, c'était la quatrième armée du monde.
Avec des armes de destruction massive.
Avec des armes de destruction massive. D'ailleurs, Hofstetter raconte, c'est très intéressant, qu'en général, il faut prouver. On prouve toujours, notamment dans son propre corps, ou en tout cas, on apporte la preuve, toujours matérielle, d'un complot. Et d'ailleurs, et les fioles d'anthrax, vous vous souvenez, hein, de Colin Powell aux Nations Unies, c'était un peu ça, mais c'est aussi Palpatine qui montre dans la saga Guerre des Étoiles, pour justifier le fait qu'il y a un complot de l'ordre Jedi qui veut détruire la République, il montre les stigmates de son propre corps. Donc on a des parallèles permanents entre les deux, et le démon, donc, Gary Wills montre à quel point ce démon, cette force, elle est pratiquement infinie, donc il raconte que c'est à la fois l'Indien cannibale, c'est le noir violeur, c'est le communiste qui fait peur, etc., qui veut détruire l'Amérique, et à ce titre d'ailleurs, la période de la chasse aux sorcières est une période fondamentale dans l'histoire américaine et même dans la guerre des étoiles, puisque ces années-là, c'est les années McCarthy, et dans ces années-là, il y a l'idée que le démon, il est d'autant plus dangereux qu'il est de l'intérieur, et qu'il va détruire l'Amérique de l'intérieur. Et c'est dans ces années-là, on a les Américains qui répondent à des enquêtes étonnantes, d'ailleurs même sur la question posée, et dont les réponses sont encore plus étonnantes. Juste pour vous donner un aperçu, dans les années 50, on demande aux Américains, si les États-Unis entraient en guerre contre l'URSS, que faudrait-il faire des citoyens américains ayant des idées communistes?
Ah bah alors justement, Thomas Negaroff, on va entendre le sénateur McCarthy, puisqu'il s'agit bien sûr de McCarthy, qui prétend avoir des listes de fonctionnaires américains aux idées communistes.
My recollection was that in this now famous 2¼-page document, there were about 35 names listed. This is pretty serious. Have we had anything as serious as this so far?
Well, yes, I think we've got something much more serious right now.
I'm talking about prior to this hearing.
May I answer that question, Mr. Chairman? I think we've got a much more serious situation now in communist infiltration of the CIA.
Les gens avaient tellement peur, ils allaient devant la Chambre des représentants, devant le Congrès, pour aller témoigner.
Et dénoncer leurs amis, leurs proches.
Et parfois, ils dénonçaient parce qu'ils avaient peur de eux-mêmes.
À raison, de perdre leur boulot.
Et donc, les Américains, vous avez plus de 40% des Américains qui, à l'époque, considèrent, face à la peur du communisme, que s'il y avait une guerre contre l'URSS, les communistes américains seraient des mauvais citoyens, et donc il faudrait les priver de leur liberté. Vous imaginez, c'est-à-dire que vous avez 40% des Américains qui considèrent tranquillement dans les années 50 qu'en cas de guerre avec l'URSS, les 40% des Américains considèrent que les Américains communistes doivent être emprisonnés.
Vous voulez dire par là, Thomas Negaroff, que dans la guerre des étoiles, ce qui est représenté par les forces obscures du mal, c'est pas la peine de remonter aux dictatures ou bien à des monstres comme Hitler, tout est américain, ça renvoie à des référents américains?
Oui, absolument, c'est ce que je prétends dans mon livre. C'est-à-dire que bien sûr, il y a, d'un point de vue iconographique, iconique, George Lucas a choisi évidemment des choses qui ressemblent beaucoup aux colonnes d'hommes filmées par Leni Riefenstahl chez les nazis. On a beaucoup de Nuremberg, on a aussi beaucoup l'image de Staline, évidemment, peut-être même le couple Palpatine-Dark Vador ressemble un peu à un couple Staline-Beria, vous voyez, sur l'homme de main et puis l'éminence grise à côté de lui. Tout ça est vrai, mais quand on regarde bien l'histoire, Palpatine et l'Empire est l'émanation de la République, une République qui aurait basculé du côté obscur par la peur, par l'usage politique de la peur. Et ce que veut dire, et l'alerte, à mon avis, de Lucas, et là je ne crois pas surinterpréter, et parce qu'il l'a lui-même dit ensuite, c'est qu'il y a un risque pour les démocraties occidentales de basculer dans un renoncement des libertés, après le 11 septembre 2001 notamment. Vous savez, les Américains votent comme un seul homme le Patriot Act, qui renie un certain nombre de libertés. Vous avez 50% des Américains qui considèrent qu'il faut revenir sur le premier amendement. qui pourtant est l'amendement fondateur des États-Unis, parce qu'il donne trop de liberté d'expression qui peut être à terme une entrave à la sécurité des Américains. Et donc il y a derrière l'idée qu'il faut, il faut accorder plus de pouvoir à l'État pour maintenir pour les citoyens américains plus de sécurité. C'est le grand arbitrage permanent qu'il y a entre liberté et sécurité. Et Lucas, d'ailleurs, mettra dans la bouche de Palpatine et de Dark Vador des mots qu'on a entendus dans la bouche, par exemple, de George Bush au moment après la guerre en Irak.
C'est un peu l'œuf et la poule, tout ça.
Oui, absolument. C'est l'œuf et la poule. C'est d'ailleurs, à mon sens, à quel point la guerre des étoiles s'inscrit en permanence dans l'histoire américaine et est quasiment une prophétie autoréalisatrice parce qu'elle est à ce point populaire aux États-Unis que les hommes d'État américains, on parlera de la guerre des étoiles dans la bouche de Ronald Reagan, eh bien, que les hommes d'État américains utilisent tout le substrat posé, toutes les graines semées par la guerre des étoiles à des fins politiques. C'est là que ça devient délirant. C'est que Lucas fait un film où il va dénoncer une évolution de la République vers un empire potentiel. Il parle du Vietnam, il parle de la guerre en Irak, etc. Et certains vont utiliser l'œuvre de Lucas, mais dans un sens bien différent pour justifier, par exemple, l'usage de la force, puisque les États-Unis se présentent en permanence comme non pas du côté obscur de la force, mais du côté de la petite république qui est le phare de l'humanité.
Mais alors, que diriez-vous de George Lucas, hein ? On pensait que c'était un capitaliste malin qui sait vendre des histoires et ses objets dérivés, au nez à la barbe d'ailleurs des grands producteurs d'Hollywood. Mais là, on apprend à travers votre analyste Thomas Negaroff que c'est un homme engagé. Il est de gauche, parce que ce que vous nous racontez, c'est le rend plutôt sympathique.
Oui, alors c'est un personnage ambivalent et ambigu, et à ce titre, il est quasiment métaphorique de l'Amérique. Enfin, il y a une contradiction apparente. Enfin, il y a quelque chose. Vous savez, l'Amérique, on a toujours une image un peu comme ça, d'un espèce d'empire capitalistique, mais il y a aussi des grands mouvements anti-impérialistes qui émergent dès 1898, dès la première aventure impérialiste américaine à Cuba. Il y a Mark Twain qui prend la plume et qui a des propos d'actualité incroyable, en disant voilà, en faisant ça, on est en train de devenir nos ennemis. Donc c'est pas nouveau. Et Lucas s'inscrit dans une vraie tradition anti-impérialiste américaine, ça c'est vrai, mais en même temps, il est aussi ce vendeur de jouets. Hein. Je cite dans le bouquin George Lucas, qui en 1976 raconte à un autre scénariste et réalisateur américain, John Milius, qui veut faire un Disney. Il dit, je veux faire un Disney, un Disney rapporte 16 millions de dollars et en coûte 10, et on gagne beaucoup de sous avec les produits dérivés. D'ailleurs, pour l'anecdote, Universal, qui a signé le contrat avec Lucas, a accepté d'avoir un contrat où ils gardaient beaucoup sur les entrées, mais ils accordaient à Lucas, ils pensaient jamais que ça marcherait, les produits dérivés. Donc vous avez vu la fortune que ça a entraîné pour Lucas, l'entreprise qu'il a créée. Donc il est les deux à la fois. Et en plus, il y a effectivement, en plus dans le film, vous avez des éléments assez altermondialistes, effectivement. Vous avez la Fédération du Commerce qui grenouille avec l'Empire, qui est une sorte de tête de pont de l'Empire. On est presque aussi chez Lénine, hein, l'impérialisme, statut suprême du capitalisme. Il y a un peu ça aussi chez Lucas. Alors bien sûr, aujourd'hui, les enfants qui regardent ça ne le regardent pas du tout avec ces yeux-là. Mais je crois vraiment que Lucas a ça en tête, d'ailleurs. Il a raconté lui-même, même si dans l'épisode précédent, je vous avais dit que le Vietnam pouvait être la clé de compréhension, mais il avait aussi dit que lui-même, ayant eu beaucoup de mal à signer ce film avec les grands studios, il avait construit dans sa tête son œuvre en pensant que les rebelles, donc les républicains, hein, ce peu d'idéalistes, c'était en fait les réalisateurs, et que l'Empire, c'était les studios hollywoodiens. Et donc c'était la revanche, finalement, de ceux qui avaient des idées, du courage, mais pas l'argent, contre eux, ceux qui ont le pouvoir, mais pas les idées, qui sont donc les grands empires hollywoodiens. Donc il y a plein de lectures possibles, c'en est une, et je crois effectivement que l'œuvre de Lucas, malgré les milliards, et c'est là que la contradiction américaine, malgré les milliards, reste d'une certaine manière une œuvre relativement contre-culturelle. C'est totalement paradoxal peut-être à écouter cela, mais il y a toutes ces dimensions-là, et c'est peut-être aussi pour ça que ça a autant marché, c'est que ça réunit finalement des enfants qui achètent des jouets, mais aussi des gens qui ont regardé le film différemment depuis les années 70.
La guerre des étoiles n'aura pas lieu, la série continue demain. On retrouve Thomas Negaroff pour le troisième épisode. À demain, Thomas Negaroff.
À demain.
Un autre jour est possible, par Toufik Hakem, tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel.
Bonjour Alain Rey.
Bonjour.
Alors, est-ce que les expressions « que la force soit avec toi ou avec vous » ou bien « le côté obscur de la force » font partie des 200 drôles d'expressions que vous venez de sortir aux éditions Le Robert, des drôles d'expressions que l'on utilise tous les jours sans vraiment les connaître?
Alors là, non, elles ne figurent pas, tout simplement parce qu'on les connaît très bien, ces expressions-là. C'est-à-dire « le côté obscur », tout le monde comprend ce que ça veut dire. « La force », c'est quand même un mot primordial et que personne n'ignore, donc le côté obscur de la force n'a pas besoin d'être expliqué. Ce qui m'avait intéressé, moi, dans nos locutions, c'est que nous les employons, et finalement, dès qu'on réfléchit un peu à leurs éléments, on bute contre une difficulté. Quand on dit « au fur et à mesure », c'est très clair, on comprend fort bien, mais si on enlève la mesure, on ne sait plus ce qu'est le fur. Donc voilà, il faut l'expliquer. Et c'est un peu le jeu de cette boîte à surprises qu'est la langue française, qui nous apporte, avec des choses que nous connaissons, parce que nous les employons fréquemment, un peu d'inconnu, un peu de mystère et un peu de drôlerie.
Alors vous êtes, ai-je besoin de le rappeler, linguiste et lexicographe? Lexicographe, ça veut dire quoi?
Lexicon, c'est le lexique d'une langue, c'est l'ensemble de ses mots et expressions. Et graphe, c'est l'écriture. Donc c'est quelqu'un qui écrit sur le lexique. Moi, j'aime mieux dire que je suis faiseur de dico, parce que tout le monde comprend, c'est plus facile et c'est plus accessible.
Vous dites dico? Vous dites pas dictionnaire, Alain Rey?
Oh, dictionnaire, c'est un peu long. Hein. Déjà, on est quand même dans un monde où il faut être rapide et compréhensible quand même. Et puis bon. Dico, c'est comme polar, je veux dire, c'est rentré dans la langue.
Alors, c'est toujours un plaisir de vous recevoir, cher Alain Rey, mais vous pensez bien que si je vous ai invité ce mardi 15 décembre, c'est d'abord pour vous poser la question de cette année 2015 qui est en train de s'achever. Quelles sont les expressions qu'on a le plus utilisées, à bon escient ou à tort et à travers?
Ben, pour commencer par une expression à tort et à travers et qui n'est pas dans mon livre, elle a été produite par Nicolas Sarkozy tout récemment, et c'était « passe-moi la salade, je te passerai la rhubarbe ». Il s'est un peu trompé parce que c'était pas du tout de salade qu'il s'agit dans cette expression. C'est un échange de produits pharmaceutiques qui étaient précieux autrefois. La chose est dans Molière, c'est « passe-moi la rhubarbe, je te passerai le séné ». La rhubarbe et le séné sont deux plantes qui servaient aux pharmaciens, aux apothicaires, comme on disait à l'époque, pour fabriquer des remèdes et des médicaments. Et alors là, il s'est un peu...
Il s'est planté, on peut le dire.
Il s'est pris les pieds dans le tapis, comme on dit. Et c'est vrai que le tapis de la langue française, il est moelleux, certes, mais on peut s'empêtrer dedans parce qu'il est d'une richesse incroyable.
Est-ce que vous avez aussi, Alain Rey, remarqué de nouvelles expressions cette année?
Ça n'était pas le but de l'ouvrage. Il y en a qui sont récentes, il y en a qui sont anciennes, mais le but, c'était d'aller chercher dans le corpus, comme on dit, des expressions françaises, celles qui révèlent un petit mystère, celles qui cachent quelque chose à nos yeux. Alors, des expressions récentes, je ne sais pas, rester au bord de la route, par exemple, il y en a qui sont tout à fait transparentes, donc elles sont moins amusantes et moins intéressantes à gloser. Ce qu'on peut dire, c'est que ça arrive... Bon, quand on s'est mis à dire « il n'y a pas de souci » au lieu de dire « il n'y a pas de problème », tout le monde sait ce que c'est, sait ce qu'est un souci, ce qu'est un problème. La différence, d'ailleurs, est considérable. Hein, et je remarque qu'en passant de « il n'y a pas de problème » à « il n'y a pas de souci », on aggrave la situation. Parce que le souci, c'est plus embêtant. Ben oui, avoir un souci, c'est quand même quelque chose qui... pose une difficulté qu'on a du mal à résoudre, on se soucie de quelque chose, alors que le problème, ça peut se résoudre facilement, et les mathématiciens sont là pour résoudre les problèmes. Il y a à peu près qu'eux qui savent le faire d'ailleurs, mais bon, on fait avec.
Voilà. Alors, quelques expressions extraites de ce livre que vous venez de sortir avec Stéphane de Grotte.
Alors Stéphane de Grotte, on sait que c'est un comédien et quelqu'un qui a de l'esprit et qui s'est beaucoup amusé avec l'élocution, mais lui, il bouscule la langue française, tandis que nous, je dis nous au pluriel parce que
nous les linguistes
a été fait avec une joyeuse troupe de linguistes, on veut quand même la respecter, c'est-à-dire qu'on fait pas des calembours, mais c'est bien d'ajouter justement un petit grain de sel par-ci par-là, même si c'est évidemment inexact au point de vue de l'origine réelle des mots. Donc c'est un livre qui est à la fois sérieux parce qu'il y a des étymologies et qu'elles sont bien attestées et sûres, et c'est un peu plaisant parce que justement le choix est fait entre toutes les locutions françaises. J'ai fait naguère, et même il y a pas mal de temps, on va dire jadis, alors là bah, c'est plus vieux, un dictionnaire des locutions où il y a quelque chose comme 4000 locutions et expressions. Mais il y a là-dedans beaucoup de choses qui se disaient au XVIIe, au XVIIIe siècle, et qui étaient d'ailleurs très savoureuses et belles, mais qui se disent plus aujourd'hui. Là, ce ne sont que des expressions courantes, et ce ne sont que des expressions où un élément nous échappe un peu, alors qu'on les emploie fréquemment.
Se remettre en question, voilà une expression qui est revenue à la mode depuis les élections. remettre en question, l'autocritique par exemple. Alors Alain Rey, quand vous écoutez les radios françaises, est-ce que vous avez l'impression qu'on malmène la langue française, qu'on l'enrichit au contraire
ou qu'on Les deux, en général.
Ouais.
Vous savez, d'un côté, quand on crée des mots nouveaux, ce qui est quand même assez fréquent, il n'y a qu'à voir du côté des banlieues et du côté des jeunes, que ça marche très fort. On enrichit la langue, certes, mais en même temps, il y a des habitudes de parole qui sont peut-être un peu critiquables, parce que on fait arriver des mots anglo-saxons dont on n'a pas vraiment besoin. Dire de quelqu'un qui fait son coming out, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Parce que ça veut rien dire de plus que de sortir dehors, coming out. C'est donc une métaphore tout à fait plate et banale, et je vois pas bien l'intérêt de ce que ça apporte à la langue française. Cela dit, moi, mon métier, c'est d'observer ce qui se passe, c'est pas de donner des bons points et des mauvais points aux gens qui parlent. Donc, je constate effectivement qu'il y a beaucoup, beaucoup d'habitudes de parole qui changent, que là-dedans, il y a des choses qui sont certainement acceptables et pleines d'avenir, parce qu'elles apportent quelque chose, je sais pas, un mot, un anglicisme comme le rap, d'ailleurs, c'est pas inutile, parce que c'est une réalité culturelle nouvelle. Donc, il fallait bien lui trouver un mot, et comme c'est monosyllabique, facile à prononcer dans plusieurs langues, internationales, ça a quand même beaucoup d'avantages. D'un autre côté, on est quand même un peu surpris de voir que quand il s'agit des choses nouvelles, les jeunes ont tendance à aller puiser tout ce qui est nouveau en Californie, ce qui est peut-être un petit peu trop pour une seule région du monde.
Oui, parce qu'il y a de plus en plus de mots, d'argot issus de parler arabe ou gitan qui font leur entrée dans le langage.
Ah oui, bien sûr. Bien, chouave est parfaitement gitan. Rome, comme on dit, on ne dit plus gitan maintenant, on dit Rome.
Ouais.
Et on a raison, parce que Rome est le mot général, hein, ça veut dire le romani, c'est la langue commune des gitans qui viennent, comme on devrait le savoir, du nord de l'Inde et qui se sont baladés dans toutes les régions où ils ont prospéré, où parfois ils se sont installés. Mais il faut bien distinguer les manouches qui viennent de l'Est, des gitans qui viennent du Sud, d'Espagne. C'est pas tout à fait la même chose, c'est pas les mêmes cultures, hein. C'est d'ailleurs pas les mêmes musiques, c'est pas... Et Django Reinhardt ne fait pas de chant flamenco. Faut pas confondre les choses. Et là, il y a des mots qui viennent effectivement de tous les côtés. J'ai consacré un livre entier aux mots qui viennent de l'Orient, par exemple du turc, de l'arabe et du persan. Et c'est extraordinairement riche. Enfin, c'est des choses qui ont enrichi la langue française depuis des siècles et de manière absolument nécessaire. Et on saurait plus s'en passer maintenant. Quand on parle d'algèbre, il faut savoir que c'est de l'arabe. Quand on parle d'alchimie, il faut savoir que c'est de l'arabe, et ainsi de suite.
Alors, on va résumer cette année avec vos expressions réunies dans ce livre édité par Le Robert. Si ça continue à aller mal en France, il faudra prendre la poudre d'escampette. Ça vient d'où?
Ah ben justement, l'escampette est rattachée à échapper, c'est le même mot, mais avec une version italienne, avec un petit diminutif gentil. Et la poudre d'escampette, c'est une poudre qui donne des illusions de départ en fanfare et rapide. C'est évidemment une drôlerie. Vous avez pas mal de mots comme ça et d'expressions qui viennent aussi de refrains de chansons, de choses comme ça. Il y a donc de la drôlerie dans le langage, et de la drôlerie en ce moment, on en a bougrement besoin pour se consoler des choses qui ne vont pas. Donc je pense que faire un livre sur des Le titre dit bien ce que c'est, drôle d'expression, parce qu'elles sont drôles à la fois amusantes et elles sont drôles à la fois avec l'étonnement du fait qu'on ne s'y attend pas. Et puis on les utilise tous les jours sans vraiment les connaître, parce qu'il y a toujours à l'intérieur un élément qui est transmis très spontanément par le langage, et ça c'est quand même une des grandes qualités de la langue française, c'est de nous garder des choses qui ne se disent plus quand elles sont seules. Vous savez, on dit un pauvre R, mais on ne sait pas ce que c'est qu'un R, on dit au fur et à mesure, et on ne sait pas ce que c'est que le fur. Donc là, on explique tout cela de manière à la fois sérieuse et un peu goguenarde, parce que je crois qu'il y a quand même lieu de s'amuser lorsque la langue vous apporte des raisons de sourire, chose encore une fois qui est en ce moment est absolument nécessaire.
À l'arrêt, je vous présente Oriane Joncourt. Bonjour Oriane.
Bonjour à vous deux.
Oriane Joncourt qui dirige donc les pages littéraires du magazine Transfuge, que vous lisez peut-être à l'arrêt.
Ça m'arrive.
Bon, littérature. Alors, chère Oriane Joncourt, votre dernier coup de cœur ne concerne pas un auteur français, mais bien un auteur américain.
Oui, mais qui partage.
Mais qui est
même
très bien traduit en France, est-ce qu'on peut le dire?
Oui, absolument, absolument. Et qui partage quand même avec vous, Alain Rey, comme tout grand écrivain, la passion de la langue. C'est Don DeLillo.
Ah, oui.
Don DeLillo, voilà, qui est. Que en effet, je suis allée rencontrer à New York il y a quelques semaines et dont l'entretien paraît dans ce numéro de décembre de Transfuge. Alors là, il venait de recevoir la plus grande distinction littéraire qu'il puisse y avoir aux États-Unis, qui est la Medal of Honor. Toni Morrison l'a eu par exemple, et lui vient de la recevoir. Alors c'était assez drôle parce que je lui dis alors, vous êtes content? Il dit, oh, vous savez, ils me l'ont donné parce que je suis pas encore mort, c'est tout.
Donc... c'est une excellente raison pour recevoir une médaille.
Non, il était extraordinaire. Donc, il nous a parlé de ce qui a fait son œuvre, c'est-à-dire son intérêt pour l'histoire américaine, son évidemment depuis l'assassinat de JFK, qui se retrouve dans cet extraordinaire Libra, jusqu'à l'Outre-Monde, cette énorme œuvre dont il racontait. Vous savez, l'Outre-Monde, ça fait 800 ou 900 pages, et il racontait qu'il était parti pour faire une novella. Et il a été très étonné parce que les mois, les années sont passées, et tout d'un coup, il est arrivé à 900 pages. Donc il raconte des choses comme ça. Et puis il raconte aussi par exemple la terreur, puisque c'est un des grands écrivains de la terreur. Et il raconte comment est-ce qu'en 2001, après l'attentat du World Trade Center, il a été tellement habité qu'il a marché dans les ruines pendant des semaines en se demandant comment il allait pouvoir écrire là-dessus. Est-ce qu'il allait faire un essai? Est-ce qu'il allait faire un récit personnel? Et il a finalement fait L'homme qui tombe, qui est un de ses romans les plus étonnants.
Et un des premiers de l'après 11 septembre d'ailleurs.
Oui, absolument.
Remarquable, oui.
Absolument, qu'il a écrit en quelques mois. D'ailleurs, c'est étonnant comme il peut écrire certains romans en quelques mois et d'autres en 4 ou 5 ans. Et puis, il nous a parlé de son prochain, et ce qui est assez surprenant, c'est qu'il quitte l'Amérique. Cet homme qui a écrit 50 ans de sa vie sur l'histoire américaine, eh bien, quitte l'Amérique. Donc ça s'appelle Zero K. Je ne l'ai pas encore lu, puisque ça sort aux États-Unis au printemps prochain. Mais ce sera visiblement un roman sur la vieillesse, sur la mort, mais pas mélancolique. Il y aurait presque un peu de science-fiction.
Merci en tout cas, Alain Rey. Je rappelle que c'est Le Robert qui sort votre dernier ouvrage avec Stéphane Le Grotte. De son drôle d'expression que l'on utilise tous les jours sans vraiment les connaître. Merci Oriane Joncourt d'être passée. Et puis à vous deux, bonne fête de fin d'année. Et oui, après tout ce qu'on a connu, on peut encore se souhaiter.
Et merci Don DeLillo, parce que ça, c'est bien qu'un écrivain soit un tel témoin, et en même temps avec un sens esthétique aussi prononcé que lui.
Merci, bravo. À très bientôt, Oriane.
À bientôt, Toufik.
Bonne fête
à vous.
Et puis, quant à nous, on se retrouve demain à la même heure. Bonne journée sur France Culture.